vraiment voulu montrer, on veut vraiment montrer comment les gens sont là dans les bâtiments. Il y a des bâtiments qui existent déjà depuis 20 ans et comment ils sont là, dedans ou autour de ces bâtiments. Et c'est un intérêt, une observation fondamentale. Je n'ose pas de dire anthropologique, mais il y a une tendance anthropologique dans ce regard, dans ce fait. L'architecture n'existe pas sans la présence des êtres humains dans des bâtiments. Un autre élément assez important qui est dans notre travail est un rapport fondamental avec l'art contemporain. On a eu, c'est une grande élément, il y a toujours ça, il y a toujours ça, l'art dans notre vie, dans nos amitiés, dans nos la première chose que nous avons fait, c'est déjà quelque chose qui était fondamental, de faire une architecture qui est ouverte, qui attend la présence des œuvres d'art ou qui est prêt d'accepter des œuvres d'art. Il n'y a pas toujours dans tous les bâtiments des œuvres d'art, c'est pas le cas. Il y a toujours cette volonté que l'art comme une présence critique dans un espace pour être prêt que les espaces peuvent recevoir cette image artistique. Premier mot, je le dirai en français, c'est tendre une satisfaction. Je veux montrer ce bâtiment que nous avons fait aux années 92 en Allemagne, dans le cadre du Documenta. C'est une exposition, le Documenta est une exposition qui se déroule chaque 5 années à Kassel. Et c'était un moment, je crois, pivotal dans notre travail. L'invitation que nous avons eue à ce moment. Et on a construit des pavillons dans le parc, le Auerpark à Kassel. Et ce que nous avons vu, ce sont les gens qui sont autour de ce bâtiment, qui s'étendent sur le champ autour du bâtiment. Et je crois s'étendre, c'est vraiment accepter le lieu, c'est vraiment fondamental. C'est le premier élément d'accepter une condition. Et je crois que une des choses que l'architecture fait, c'est accepter le monde dans lequel nous travaillons et les gens qui s'étendent autour ou même au-dessous des bâtiments parce que la nuit, c'était une sorte d'hôtel bon marché. Les gens restaient au-dessous des bâtiments la nuit, mais le jour, ils étaient là. Et le fait qu'ils étaient là, sur les champs, je trouvais ça très touchant pour nous. C'était vraiment, ils voulaient être là. Ces simples bâtiments, ce sont des bâtiments qui n'ont existé que 100 jours, les jours du Documenta. Ce que nous avons fait là-bas, c'était dans ce parc formidable, qui est un parc de 4 km le long de la rivière. Et le parc regarde l'Est. Et dans ce temps-là, du moment qu'on travaillait là-bas en Allemagne, c'était vraiment le moment que les deux pays, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, se sont unifiés. C'était un moment historique. Et ce pavillon regarde vers l'Est, vers les nouveaux pays qui étaient là. Mais l'idée fondamentale, c'était qu'on voulait montrer la peinture dans son lieu d'origine, ce qui est le paysage. L'origine de la peinture, c'est le paysage. Et c'était très important pour nous, pour réfléchir sur ce fait. Et ce bâtiment voulait que les peintures, ou ce qui est maintenant la peinture dans notre temps, ça peut être avoir de différentes formes, mais disons des éléments plates contre un mur, ce que nous appelons une peinture, des éléments, un art rétinal qui touche l'œil, pour mettre ces peintures dans la nature, dans son origine. C'était important et l'idée de ce bâtiment, c'était vraiment faire ça. Pour nous, la peinture est plus proche de l'architecture que la sculpture. Comme l'origine de la peinture est le paysage, est l'image de le paysage, de l'horizon, par exemple aussi dans les peintres primitifs flamands, c'est fondamental, le paysage qui après les personnages, et c'est une image de l'infinité. Comme l'architecture construit un paysage artificiel autour des gens, on trouve cette simultanéité de la peinture et l'architecture. Et il y a aussi dans ce bâtiment le métaphore des trains, des trains qui se rangent comme que les trains qui sont dans les gares. Et les images qu'on voit qu'un train départ ou un autre train arrive dans la gare, où les deux trains se passent de directions différentes, ces images qui sont l'un mais l'un sur l'autre, c'était une image pour nous vraiment picturale, et on voulait dans ce bâtiment ce sentiment d'une certaine construction de l'image pictural. Ça veut dire les réflexions dans les fenêtres étaient tellement importantes, mais aussi les peintures qui sont montrées vers les gens, mais aussi vers la nature, comme des affiches, comme des billboards. Bon. Il y avait toujours cette rencontre avec des artistes comme l'artiste Raoul de Keyser dans le temps, qui faisait de ces peintures peu élémentaires, ces petites taches noires sur des toiles. C'était un des peintres qui a montré son travail dans les pavillons de Lowe. Et bon, on a cette histoire très longue avec lui, parce qu'au moment maintenant à Bruxelles, il y a un expo, que nous avons fait l'architecture pour cette expo du travail de Raoul de Keyser. Ça veut dire que l'histoire se répète. On est très heureux avec ce fait qu'il y a quelques artistes dans notre vie qui étaient toujours là, comme le peintre Raoul de Keyser. Et aussi, Le grand peintre allemand était dans les pavillons et j'aime beaucoup cette photo ici avec cette composition presque baroque triangulaire comme la descente, descendement de la croix ou comment ça descend, le creux of Neumann. Bon, c'est Gerhard Richter tout. Tout ce qu'il est en haut sur l'échelle là et qui a mis ses œuvres dans un petit cabinet qu'on a fait. On a discuté avec lui sur son espace. Mais à la fin, il a mis cette petite peinture qu'on voit là-bas. C'était sa première peinture de fleurs. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme peintre? Peindre des fleurs, c'est vraiment peindre la couleur, et je vais en parler un peu plus tard. C'était comme ça. Richter nous demandait, qu'est-ce que tu vois dans mes peintures abstraites? Et je dis, bon, je vois que je vois les lacs avec les plantes autour de l'eau là-dedans. Et bon, il y a eu une discussion et on a vraiment construit un cabinet pour ce travail. Il y a tous ces verticaux dans cette peinture et on a mis une finition bois avec des horizontaux. C'était la fin de la discussion. Aussi le fait qu'on a mis les peintures en deux registres, c'était une occasion. C'est une maquette faite par Isa Gensken. Je vais attendre et batifoler. Ceci est un espace public à Knokke, c'est à la mer en Belgique. Oui, et la place est très très spécifique parce que il y a cette rencontre des gens un peu âgés d'un côté ou des parents des enfants et des jeunes des petits enfants qui jouent sur la place et ça c'était vraiment le temps le thème de ce travail ces deux moments dans la vie de l'homme, quand on a un certain âge d'un côté ou quand on est très jeune de l'autre côté. Et cette confrontation était le thème de cette place, attendre, regarder la mer ou regarder les enfants qui jouent. Et je trouve que l'architecture doit donner place à cette rencontre, ce moment d'attendre, peut-être attendre la fin de sa vie, ou aussi elle doit donner place au jeu des enfants, mais au jeu des adultes. On a construit ce sol avec une couverture de blocs en béton coloré, comme les couleurs, on a choisi des couleurs maritimes, le gris de mer du Nord, le bleu-gris, le bleu noir, le gris noir, et c'était comme enfin, c'est comme un miroir de la mer sur cette petite place. Et on a invité l'artiste autrichien Franz West, qui est vraiment, je pense que l'artiste autrichien le plus important au moment, parce que nous connaissons son travail déjà depuis des années, et surtout c'est l'amour, cette tête, cette grande tête. Je vais regarder. Il y a deux sculptures sur la place qui sont mises sur des petits pavillons parce qu'il y a un parking au-dessous de la place. c'est une place triangulaire. Et c'est peut-être, les petits-enfants, ils roulent sur cette place avec les petits autos et les petits vélos. Et c'est un jeu, c'est comme un billard électronique, je crois, avec les enfants qui touchent les éléments avec leurs petits vélos, leurs petits autos. Et il y a ces deux sculptures, ces deux têtes. Et Franz West les appelle des lémures. Les lémures, ce sont des dieux romains mythiques et qui sont toujours tout près de l'eau. Et nous connaissons ce thème dans son travail et on voulait ces deux têtes comme deux polarités sur la place, mais aussi comme une sorte de conversation entre ces deux têtes un peu burlesques d'un côté, mais aussi une sorte d'abstraction de l'autre côté. Bon, c'est une image, un style de film qu'on peut voir avec... oui, ça c'est le portrait de Franz West. Bon. Une même situation est créée à Anvers. C'est le Palais des Beaux-Arts à Anvers. Le Palais des Beaux-Arts à Anvers, c'est un peu le Louvre ou le Prado des Flandres, le maître flamand comme Rubens, Van Eyck et aussi Ensor sont dans ce bâtiment, leurs œuvres sont dans ce bâtiment. C'est vraiment un caisse de trésor pour la peinture flamande. Et on a fait l'aménagement de cette place devant le musée des Beaux-Arts à Anvers, et on a invité, on voulait un miroir d'eau qui a juste les dimensions du pronaos du musée qui est construit à la fin du 19e siècle avec un tout entouré d'un urbanisme du 19e siècle. C'est vraiment le centre de cette nouvelle partie de la ville. Et on voulait ce miroir d'eau dans lequel la façade, on voit la réflexion de la façade du musée. Mais on a invité le sculpteur espagnol, Cristina Iglesias, pour faire un travail. Décider la dimension du miroir d'eau, mais elle a fait un projet très poétique. Elle a fait un sol dans ce bassin qui est un grand bas-relief. Et dans ce bas-relief, il y a une fissure de laquelle l'eau jaillit et qui remplit le bassin. Et après une heure, l'eau coule de nouveau dans cette fissure, dans cette qui est dans ce bas-relief qui a une image du végétation. Et mais il y a aussi une connotation sexuelle dans ce projet, c'est féminine. Et mais très beau. Ça veut dire elle a introduit l'idée du temps dans cet espace, dans cet espace public, l'idée du temps d'un côté et aussi l'idée du profondeur, pas du hauteur mais vraiment du profondeur. Elle appelle aussi cette œuvre d'art Deep Fountain ou Fontana Profunda, fontaine profonde. Bon, il y a aussi ces sculptures qu'on a excusez-moi, qu'on a récupéré les sculptures de Rodin, du jeune Rodin, un monument démoli à Anvers. On a récupéré ces sculptures pour les mettre comme des éléments sur la place. Se promener, s'immobiliser, poursuivre et rester. C'est le thème du projet de Whitechapel à Londres. Ça, c'est la façade du Whitechapel à Londres. Le Whitechapel, c'est un lieu extrêmement important à Londres, très historique. C'est un lieu qui est fondé par un couple de religieux qui a décidé de construire premièrement le bâtiment là à droite. C'était une bibliothèque et c'était dans un style victorien. Et quelques années après, ils ont construit le fameux Whitechapel Art Gallery à côté, qui est un bâtiment de arts and crafts avec une 5 ans de différence, mais deux styles complètement différents. Et bon, il y avait un petit concours pour réunir ces deux bâtiments parce que la bibliothèque est disparue. Et notre inspiration était de regarder ce qui se passait là sur le trottoir juste en face de ce bâtiment. On voit les gens entrer dans le bâtiment. On voit ici, parce qu'il y a la photo au milieu, c'est l'entrée aussi du métro qui est vraiment dans le bâtiment même, l'entrée. Et l'autre seul, le seuil de la bibliothèque. Et on a réfléchi sur ces mouvements des gens, entrer dans les bâtiments, rester là-bas, et on a décidé de travailler avec ces contrastes dans une expérience d'une œuvre d'art. D'un côté, regarder à des œuvres d'art, c'est en fait une promenade qu'on fait, et on peut se promener là où ce qu'on veut. Il y a une grande liberté. Les musées donnent une très grande liberté qu'on n'a presque pas dans les espaces publics, mais dans un musée, on peut décider, je vais par là et je regarde ça, mais je ne regarde pas ça. Ça veut dire c'est walking d'un côté et de l'autre côté de rester. Et ça, c'est une chose qui n'arrive pas souvent dans un musée, qu'on peut rester là-bas, qu'on peut s'asseoir et voir une œuvre d'art depuis un très long temps, peut-être une journée. Et on a introduit ce thème de rester, de s'asseoir, parce que dans la bibliothèque qui était là, c'était vraiment le living, c'est la place où les gens qui vivent dans ce partie de la ville, et c'était un des parties de la ville qui est le plus pauvre de Londres. Les gens étaient là et c'était leur place où ils vivaient, c'était leur living. Et on voulait continuer ce sentiment d'une place où ces gens pouvaient rester. C'était un élément très important. Il y a cette façade avec une iconographie extrêmement complexe. Et bon, je peux en parler beaucoup, mais toutes ces deux façades sont conservées. On doit vraiment conserver ces façades. Ils sont listed premier rang. Ça veut dire on devrait être très prudent. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est mettre d'autres dans toute cette complexité d'iconographie. encore ajouter de l'iconographie, par exemple la sculpture, le ventre, ça je ne connais pas le mot français, weathervane, enfin une chose qui tourne avec le vent. Oui, et c'est une œuvre de Rodney Graham, c'est Erasme sur son cheval, mais il lit dans la mauvaise direction, ça veut dire qu'il y a une certaine critique dans cette œuvre de Rodney Graham, l'artiste conceptuel canadien, d'une light, mais ce que, enfin, la période rationnelle et l'illumination qui a pris une mauvaise direction. C'est un peu cette critique. Il y a aussi cette partie très blanc qui est là, qui pour nous est un blanc qu'on voulait encore, on doit encore travailler ça. On veut une œuvre d'art de... j'ai oublié le nom d'une artiste anglaise. Rachel Whiterat. Ok, elle va faire un grand bas-relief. Mais bon, se promener et se rester, ce reflet dans les plans de ces deux bâtiments, le bâtiment existant, le Whitechapel existant, a une typologie en longueur ici. Et l'autre bâtiment, on a reconstruit, parce que c'était détruit, on a reconstruit ce croix grec. Ça veut dire qu'on a confronté deux typologies très différentes. D'une côté, une typologie avec un axe longitudinal, et une autre typologie qui est vraiment centralisée. Et centralisée, ça veut dire qu'on peut... On peut rester là-bas, on peut s'asseoir là-bas. Et là, l'autre galerie, on doit marcher. Ces deux activités de gens. Ça, c'est la galerie, la nouvelle galerie qui est appelée le Commission Gallery. Et qui, là, on invite des artistes pour faire une œuvre et qui restent là pour un très long temps, et c'est là que les gens peuvent s'asseoir, peuvent observer la création d'une œuvre d'art. Et c'est en contraste avec d'autres espaces. Il y a aussi l'espace pour l'éducation, les enfants, tout en haut. Et là, on a une vue sur la ville. Couleur et être seul. Je veux montrer ce projet très petit. On a beaucoup de très petits projets, mais je n'ose pas le dire. Au moment, on travaille sur de très très grands projets, mais je n'ose pas les démontrer parce qu'ils ne sont pas encore. On doit travailler encore. Mais des projets vraiment très très petits, mais qui sont très. Très important dans notre travail. Ce sont deux tours d'observation qu'on a construit en Angleterre, dans les Midlands, dans le pays tout près de Manchester, le Midlands. Et je dois changer. Ok. Et il y avait cette institution anglaise qui est fondée en l'année 2000 pour construire des sentiers tout autour de l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas une tradition de la bicyclette. Et ils voulaient construire des chemins pour la bicyclette partout dans l'Angleterre. Et il y a aussi un élément social parce qu'ils veulent Ce sont ici, c'est un de ces sentiers, c'est un de ces chemins qui est entre la ville de Lincoln et une autre ville de Boston qui est à la mer, qui est une ancienne ville médiévale à la mer. Et ils ont construit, c'est à peu près 60 kilomètres, et nous avons construit deux petits tours, petites œuvres, parce que c'est un pays très plat, comme la Polder en Flandre et au nord de la France, très très plat, mais il y a de ces tout petits ponts, escaliers, tours, et on peut se lever un tout petit peu sur le paysage et regarder le paysage. C'est un escalier quelque part, on peut voir la rivière qui est parce que le sentier est parallèle avec la rivière et on peut voir la rivière de ce tour. Seulement pour être là, pour être seul peut-être seul là-bas dans tout au milieu de la nature. Et on a introduit ce thème du couleur dans ce projet. C'est un thème qu'on a dans d'autres musiques. On a fait des projets en rapport avec la musique, mais ici, on a introduit ce élément de couleur très, très doux, mais il est là. C'est une construction métallique avec des lattes en bois et on a mis des couleurs sur les lattes en bois. Et ce sont des couleurs des oiseaux qui sont là dans la nature. On a fait une petite recherche sur le Bird Watching Club de Lincolnshire Bird Watching Club. Ils ont un website et on a trouvé ces oiseaux qui sont là, qui sont dans cette nature. Ce sont des photos qui sont prises des amateurs. Et on a pris ces couleurs pour faire les lattes, pour colorer les lattes de ces deux petits tours qu'on a construits. Et je crois qu'il y a quelque chose, il y a la géométrie d'un côté, il y a la musique d'un autre côté, qui donne une idée de l'éternité. Mais je crois qu'aussi que la couleur a cette qualité, de sentiment de l'éternité qu'on a introduit dans ce projet. Mais aussi des éléments des grands monuments. C'est un monument extraordinaire. Regardez ces voûtes asymétriques dans la cathédrale de Lincoln. On appelle ça en anglais le crazy vaults, les voûtes folles. C'est incroyable. Et on a introduit ce thème de zigzag dans ce projet, dans la nature aussi. Donc, je crois que utiliser la couleur n'est pas vrai. Je n'ai pas compris. Anodin. Oui, c'est la couleur. Comme ici dans le livre de Gerhard Richter, Warcut, qu'il a mis son dégoût de guerre en Irak. Utiliser des couleurs. Il a regardé ses propres peintures, il a pris des détails de ses peintures, surtout le rouge, il a surtout fait un choix de rouge, de tout genre de rouge. Il a mis tous les textes qui étaient dans les journaux dans ce temps-là, de guerre de l'Irak. Et c'est devenu le livre de Warcut. Bon. L'abysse, le chaos, est un gouffre, le rocher. C'est un thème qu'on avait dans en développer le projet pour la salle de concert à Bruges. La salle de concert de Bruges tout près de la ville, tout près du centre, du centre-ville de Bruges. Et Bruges est vraiment la ville le plus protégée en Flandre. Toute la ville est protégée par l'UNESCO. C'est vraiment la ville médiévale, mais il y a beaucoup de parties reconstruites au XIXe siècle. C'était l'image de la ville chrétienne médiévale. Il n'y avait pas de bâtiments contemporains, pas du tout, depuis 200 ans. Et il y avait ce concours pour la salle de concert à Bruges. On a gagné ce concours et on a construit cette salle de concert. C'est dans le contexte de Bruges, ville capitale culturelle de l'Europe, en 92, 92. Mais le thème de l'abysse, ça c'est quelques images du bâtiment. C'est un bâtiment avec deux salles, en fait, deux salles de concert, une grande salle de 2000 personnes et pour des concerts symphoniques, de grande échelle, et une salle de musique de chambre que nous avons proposée, qui n'était pas dans la question du concours, et on a mis cette salle de musique de chambre dans le premier tour qui est tout près de la place. Mais entre ces deux salles, on a construit cet abysse comme un élément de chaos, la signification étymologique du mot chaos, c'est vraiment abysse, quelque chose qui est coupé entre deux parties dans un paysage. Et on trouvait, on voulait faire cet abysse entre la ville et ce qui se passe dans une salle de concert, cette concentration, ce moment vraiment très important quand les musiciens, cet rapport des musiciens et le public, qui est un rapport, qui est une communauté, peut-être pour quelques heures, mais qui est un rapport très, très, très proche. On a mis ce thème d'abysse entre les deux, de chaos, et après, il y a la musique. Le thème de la couleur, la salle. Ouais, c'est une salle très complexe. D'un côté, c'est une salle de concert, de l'autre côté, c'est aussi une salle, c'est un opéra, mais c'est aussi une salle pour le ballet. Très petit projet, et c'est aussi ici dans un de ces six films qu'on peut voir dans l'expo, c'est ce petit cabanon dans un bois au sud de Gand, au sud de Flandre, en fait. Un petit cabanon qu'on a construit pour des gens qui peuvent être là, peut-être être seuls ou deux gens qui peuvent être là de quelques moments. Et il y a dans ce projet, il y a l'autre projet aussi, ce sont deux petit projet, un cabanon pour des gens, et l'autre, c'est un colombier qu'on a construit dans un bois en Hollande, mais ils ont un peu la même, il y a un aspect simultané dans ces deux projets, c'est vraiment faire des blocs l'un sur l'autre et construire quelque chose. On était pour la cabanon, on était très inspirés de regarder un film muet, un des premiers films documentaires qui existait, Nanook of the North. C'était un film sur les Inuits, les Esquimaux, qui construisent un iglo dans ce film. Ce sont des images très, très, très beaux, en noir et blanc, et on voit la construction d'un iglo. Ça nous a inspiré de faire un bâtiment avec des blocs comme un iglo, mais il y avait aussi une autre inspiration qui se croisait. Après une visite dans les montagnes tout près de Séville, les Alpujarras, et là on a des bâtiments comme au Tibet, très plates, en forme de terrasse, comme le grand bâtiment en Tibet, mais aussi des bâtiments de maisons aussi, ils sont construits en forme de terrasse. Et le petit bâtiment a ces deux éléments dans une seule typologie. L'autre, la tour, était peut-être inspirée par les stupas qu'on a vus aux Indes, qui étaient là dans le paysage. Ce rapport entre ciel et terre, mais aussi construit avec les blocs. Je ne sais pas s'il y a eu un oiseau qui a choisi ce bâtiment. Je n'ai jamais vu un oiseau vivre dedans. Mais quand même. Je ne sais pas pourquoi maintenant cette image de la salle de concert de nouveau. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, c'est peut-être. Oui, c'est une des salles de concert, c'est une salle de musique de chambre à Bruges, qui est une petite salle pour 300 spectateurs ou écouteurs. Et c'est une spirale autour d'un cours très simple, rectangulaire, mais les gens sont dans toutes ces fenêtres qui sont autour de cette. Chaque fois, il y a des gens que, comme un théâtre, le théâtre élisabéthien, le théâtre de Shakespeare, quand les gens sont entourés dans le spectacle. Mais ici, c'est vraiment pour la musique. Je voudrais dire, on a toujours eu cette distance de l'idée que l'architecture a quelque chose à faire avec la sculpture. Quand même, il y a cet élément de rocher, ce paysage rocheuse. Par exemple, des paysages artificiels dans les zoos, par exemple, le zoo d'Anvers, il y a ce paysage artificiel qui est des rochers construits en béton. On est d'un côté assez intéressé en ça. Ce qu'on voit aussi dans cet élément de construction, mais pictural, la sculpture et la peinture se rapprochent vraiment dans l'œuvre de Cézanne. Il y a quelque chose quand même dans certains projets, cet élément rocheuse, cet élément de bloc. Et ça, c'est notre projet pour l'extension du zoo d'Anvers. Des bâtiments pour des singes et des éléphants et des girafes. Mais c'est un des projets très tristes qu'on peut avoir dans une carrière d'un architecte. Rien se passe là-bas. Il n'y a aucune chose. On a gagné ce concours. On a travaillé Pendant 3 années, on a fait un grand projet et on a dit on va faire quelque chose. Mais à la fin, on a rien là-bas. Rien se passait là-bas. C'est un de ces projets tristes que dans une carrière d'un architecte. Beaucoup de travail, beaucoup de passion aussi, beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que c'est? C'est des bâtiments pour des animaux. Qu'est-ce que c'est? Un zoo, est-ce que c'est une prison pour des animaux et tout ça, toute cette réflexion, toute cette. Oui, on a regardé dans les yeux des orang-outans et tout ça, et après, rien du tout. Bon, c'est triste. Mais oui, aussi cet aspect de rocher. Et dans ce projet, c'est un projet de restauration et réinventer la bibliothèque de l'Université de Gand. La bibliothèque de l'Université de Gand est un des chefs-d'œuvre, vraiment, des chefs-d'œuvre du modernisme en Belgique, en Flandre. C'est un des grands projets du grand architecte Henri van de Velde. Henri van de Velde était un grand architecte qui a travaillé en Allemagne juste avant le Bauhaus, qui a en fait fait l'école à Weimar. Et à la fin de sa vie, il a fait cette bibliothèque en 1935. Et c'était un bâtiment complètement en béton. Il voulait ce béton, cet élément dur, cette tour de livres. Mais bon, la condition, l'état de ce bâtiment est maintenant c'est vraiment nécessaire pour faire cette restauration. Et on va faire quelque chose de très très dur. On va gratter vraiment. Parce que ça, c'est une ancienne photo au moment de la construction. Est-ce que c'est ça que voulait Van de Velde? Vraiment un élément dur, solide, un bloc dans la ville qui est un bloc avec bon, tous ces éléments dedans, tous ces livres dedans, toute cette science dedans, tout ça, un signe très fort. Elle voulait construire ça en béton, mais déjà dans les années 50, ils ont mis un enduit sur les façades parce qu'il y a des infiltrations d'eau. Est-ce que ce qu'on va faire, c'est vraiment gratter tout le pot du bâtiment de 3 cm jusqu'au fer, jusqu'au métal, et couler du béton de nouveau contre la façade. Ce sera un travail vraiment très, très, très intensif, de très long, très longue. Mais j'aime cette expérience, ce qui sera très, très, très difficile de le faire, mais on va le faire. On va commencer de construire premièrement un dépôt pour mettre tous ces livres dedans et après on va faire ce travail. Alors, ici à Bordeaux, on va construire les nouveaux archives de la ville de Bordeaux. On a quelques expériences dans notre agence. On a construit les archives de la ville d'Anvers, aussi dans un ancien entrepôt dans le port. Et on a aussi fait les études des archives de la ville de Bruxelles. Et comme ça, Michel nous avait donné l'idée pour prendre part à cette compétition. On a gagné, on est très heureux. et on va travailler. Bon, il y a l'ancien magasin de la farine ici, qui est ici, et on va construire un nouveau bâtiment là. Et dans l'ancien magasin, on va faire vraiment les archives dans les chambres qui seront construites en béton. Ce sont vraiment et qui sont mis l'un sur l'autre comme des caisses, comme une construction portuaire ou ce sera comme ça. Et ça donne aussi de nouveau cet élément de construction qui va dehors du périmètre de la construction initiale, mais qui montre cette image de mettre une caisse sur l'autre. Et ce seront les archives. Mais en même temps, il y aura des espaces en forme d'abysses qui seront les espaces pour le public d'un côté et pour les gens qui travaillent dans les magasiniers qui travaillent dans les arts de l'autre côté. Oui, le courant, la murmure, les gens et les animaux. Oui, de nouveau, le zoo d'Anvers, qui est un zoo très, très intéressant, qui est complètement entouré par la ville. C'est un des plus anciens zoos de l'Europe, qui a été construit au milieu du 19e siècle, mais dans ce temps-là, c'était encore dans les champs. Mais la ville a entouré le zoo. On pouvait agrandir ce zoo avec cette partie-là au nord, une partie assez importante, 20-30% de nouveaux zoos. Et on a pensé à l'idée du fleuve, du flood, que les gens sont vraiment dans un état de flow, de fleuve, qui est entouré par les animaux et les bâtiments, tous les bâtiments qu'on devrait construire. Comme une sorte de vallée, comme une sorte de jardin d'Éden, entrer dans un nouveau jardin, être un moment dans une situation très spécifique, entouré par les animaux et les champs. Mais bon, comme j'ai dit, rien se passe. Et toute cette structure de petits chemins, il y a des éléments existants parce que les bâtiments qui sont là sont vraiment très très intéressants. Il y a le temple égyptien, il y a des constructions classicistes, mais aussi des constructions plutôt rurales. Tout un vocabulaire d'architecture. Comme une collection, comme il y a aussi une collection d'animaux. Et bon, on cherchait de unifier tout ça avec le paysage et les nouveaux bâtiments. L'idée du flow aussi dans les peintures de Cy Twombly, avec l'image qui était initiale pour ce projet. Organes, cercles et spirales, quelques de nos projets ont cet élément d'organes, de cercles, de spirales, surtout des spirales. Et ce petit bâtiment, il y a aussi un film de ce bâtiment qui a été construit dans le paysage tout près de Bruxelles. On est à 10 km du centre-ville de Bruxelles, dans un paysage très beau, un paysage de Bruegel qui vivait là-bas, qui a aussi fait des peintures. Et ce bâtiment est une spirale. On peut monter sur le bâtiment et arriver tout en haut et regarder le paysage. Et c'était comme dans les peintures de Bruegel, il y a toujours cette perspective de l'eau, regarder le monde. Et c'était un peu l'idée aussi dans ce bâtiment, faire ce spirale qui monte. Et l'intérieur est le négatif de ce bâtiment. C'est ça. C'est un petit bâtiment et on monte l'escalier et l'intérieur, c'est le négatif. On a fait une voûte en briques qui commence d'une hauteur très, très bas et qui va toujours, qui forme une certaine hauteur. C'est une petite salle de musique, petite salle de concert, mais privée. Et le propriétaire invite les musiciens, ils jouent là-bas, ils peuvent étudier là-bas, ils peuvent rester là-bas parce que c'est une ancienne laiterie et on a mis quelques chambres et une cuisine et tout ça, tout à la campagne, c'est ça. Un autre projet dans cette idée d'organe, de spirale, de cercle, c'est en Suisse. C'est une ancienne remise de locomotive. J'ai oublié le nom de la ville. Saint-Gallen. Et on a installé là une séquence d'espace pour l'art contemporain. On a ce bâtiment circulaire. On a fait une séquence d'espace dedans. Il y a des artistes qui ont mis leurs œuvres, comme le Franz West, Bourgeois. Et enfin, on est à Pomerol. Le bâtiment est en construction. On est très proche de la fin de la construction. C'est un bâtiment, on voulait faire vraiment un bâtiment très modeste, très qui est là, dans les vignes. C'était aussi la volonté de nos clients qui voulaient vraiment quelque chose très modeste, très petit, parce que le vignoble est très petit, il n'est que 2 hectares, 3, et on a divisé le programme en 2 volumes. Le grand volume, c'est le cuvée, et au-dessous, il y a le chai de barrique. Il y a un petit tour quand même dans lequel il y a la salle, la petite salle, chambre d'accueil qui regarde la vigne. Ça, c'est le chai de barrique. Est encore en construction, mais il est déjà là. Il est fait en béton et la lumière entre par un cours anglais et il y a la lumière naturelle. Et les barriques seront rangées ici. Très petit, très, très, mais un vin extraordinaire. C'est comme ça. Très, très cher. Oui. Très bon, très bon. Oui, c'est ça la construction. D'un côté, vous avez le chai de barrique et aussi la cuvée et la tour de l'autre côté, qu'il y a une connexion d'un auvent, et au-dessous on fait quand il y a la récolte dans les vendages, il y aura la table de triage au-dessous de cet auvent. Bien, on est presque arrivé à la fin. Ça, c'est notre lieu, à Gand, où on travaille. On a cette grande hall du début des années 70, 70 72, je crois. C'est une construction très légère. On n'utilise qu'une aile et nous sommes là avec tout notre groupe de 35 personnes et on regarde dans le hall. Et dans le hall, on est en train de planter un jardin, une collection d'arbres sous une toiture. Mais d'un côté, on a ouvert la toiture. Comme ça, le soleil du sud entre vraiment dans le hall, très profond. Comme ça, les arbres peuvent vivre là, sous la toiture. On fait aussi de la pluie, parce qu'il y a tout un système d'irrigation, et aussi de l'eau dans le sol. On a déjà 3 années là. Vous verrez certainement la différence, parce que ça, c'est une photo récente, mais un des films montre le hall il y a 2 ans. On est très très heureux là-bas. C'est comme ça qu'on travaille. Une construction très élémentaire. On a changé tous les toits. Ici, on a fait des chaînes pour laisser entrer la lumière du nord, là où on travaille. On regarde dans le hall. Et j'ai construit moi-même ma propre petite maison. Enfin, petite maison, c'est quand même une maison, mais maison-atelier. Et je regarde dans le hall de l'autre côté. Donc, comme ça. Il y a aussi un bassin avec quelques souvenirs très chers, l'œuvre de Juan Muñoz, un grand ami qui est décédé, qui est un grand artiste espagnol. Bon, la fête, l'ouverture, quand il n'y avait presque pas de l'arbre. C'est ça. Je suis prêt déjà. Je pensais que je vais parler 3 heures, mais c'est déjà fini. S'il y a une question, je veux vraiment répondre, mais pas trop difficile. S'il y en a pas, c'est très bien aussi. Oui. Ah. C'est très.
Je voudrais te poser une question sur ton rapport à l'art. Beaucoup des projets de Robert Stedem font écho à l'art. Vous avez déclaré par ailleurs que lorsque l'art et l'architecture collaboraient, il pouvait se créer des lieux inoubliables au sens de création de mémoire. Pourriez-vous commenter cette position?
Oui. De temps en temps, dans un projet, on a le sentiment, on est sûr qu'il y a des éléments qu'on peut pas exprimer avec l'architecture. Il y a un certain vocabulaire ou une certaine groupe d'idées qui sont hors de l'architecture, qui sont pas dans le domaine de l'architecture, mais qui sont nécessaires pour le lieu. On trouve ça. Et de temps en temps, on en parle avec nos clients, avec les gens, qu'on a ce sentiment qu'une image est vraiment nécessaire dans un projet. Et l'image doit être critique, doit être fondamentale. Ou bien, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas mettre un beau cadre, une beau peinture. Ça doit être fondamental dans le projet. Et il y avait quelques de nos projets qu'on pouvait introduire cette idée. On a travaillé presque tout au début du projet avec un artiste. C'est toujours notre proposition. Parce que si cette idée est là, on a déjà un artiste dans notre tête, parce qu'on garde beaucoup l'art. Mais c'est travailler ensemble, mais c'est plutôt un dialogue, c'est plutôt deux positions l'un contre l'autre, et ça donne une certaine tension, l'œuvre d'art doit avoir une certaine présence. Et ça donne peut-être, de temps en temps, c'est ce que nous espérons, ce lieu inoubliable, ce lieu où on sent cette tension, on voit ce rapport entre l'espace et l'œuvre d'art qui est critique. Et on a essayé ça. Il y a quelques de nos projets qui, peut-être la fontaine, par exemple, à Anvers. C'est joli, mais il y a aussi une profondeur, il y a aussi une réflexion de l'artiste. Il y a aussi quelque chose qui est dehors de l'architecture, qui parle d'autre chose, mais qui est là, qui est fondamental. Et c'est souvent très difficile, ça arrive de temps en temps. Il y a aussi des choses qui on commence, mais on réussit pas. Ça a passé aussi. On commence, on avait cette idée, cet artiste, mais à un certain moment, c'est pas là, c'est pas bon. Mais quand ça se passe, c'est vraiment ce que nous appelons le lieu inoubliable. Les deux sont là, et vous êtes là comme personne dans une condition, vraiment, dans une condition. Et ça, nous espérons de le faire encore dans nos projets. Mais il faut quelque chose entre l'artiste et les architectes. Et aussi les gens qui vont utiliser le bâtiment. Il doit être quelque chose entre ces gens. Et quand je regarde ce que nous avons fait, je vois que j'ai maintenant 60 ans, je suis vieux, en fait. Mais quand je regarde ce que nous avons fait, je vois que ce sont des artistes d'un côté ou l'autre de notre génération. C'est un dialogue, mais j'espère que nous pouvons aller dehors, c'est ça. Mais c'est pas facile. Je n'ose pas dire une amitié, parce que c'est pas important, mais il faut avoir une expérience commune avec cet artiste, une sorte d'histoire commune. Et Même nous espérons de travailler avec des artistes jeunes ou plus âgés. Ça a passé aussi parce qu'avec Raoul de Caisse, il est quand même plus âgé que nous. Mais bon, travailler avec un jeune artiste, c'est un de nos espoirs dans quelques de nos projets.
S'il n'y a pas d'autres questions, j'en pose une autre. La pratique de votre agence est marginale puisque vous faites... on peut la voir comme marginale puisque vous faites peu de concours, vous répondez, vous faites des projets essentiellement de petite échelle. Est-ce que c'est un choix? Et si c'est un choix, pouvez-vous l'expliquer?
Oui, mais ce qui se passe maintenant, c'est vraiment toute autre chose. On travaille sur une échelle très grande, la plus grande échelle dans notre pays au moment. On fait des projets, oui. Aussi des projets urbanistiques, mais ils sont encore ils doivent encore être là. Ils ne sont pas là encore, mais il y a vraiment un changement, presque un boom, on doit le dire, dans notre agence, et nous espérons qu'on pourrait garder cet esprit de l'intimité quand même dans ces projets. On fait des grands projets de infrastructure. Ça veut dire qu'il y a un changement. Je ne sais pas si. Enfin, c'est comme ça. Ça se passe. Nous sommes aussi avec 35 personnes. En Belgique, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et on travaille. Mais aussi, il y a de très petits projets qui sont très, très importants. On est en train de. On a fait. Enfin, le projet est fait, mais ça doit être encore construit pour l'année prochaine. On va construire un petit pavillon de sculpture dans un jardin de sculpture historique presque à Anvers, c'est Middelheim. C'est une collection fantastique de sculptures de Rodin jusqu'au tout nouveau. C'est vraiment l'histoire de la sculpture là. Et on va construire ce pavillon pour une grande exposition pour l'année prochaine. Et c'est pour nous quelque chose, c'est vraiment une réflexion comparable avec ce qu'on a fait pour le documentaire, le pavillon dans le Howe, qui était pour la peinture. Et c'est un beau miroir maintenant, qu'on va construire un pavillon pour des sculptures. Et le premier... artiste qui va montrer son travail dedans et aussi quelqu'un qui est très important dans notre vie déjà depuis des années sera Thomas Schutte, l'artiste allemand. J'en ai très heureux de faire ça. Ça veut dire on essaye de garder cet esprit et maintenant on fait des réflexions comment on peut faire ça dans des projets d'une échelle beaucoup plus grande, mais vraiment beaucoup plus grande, et garder vraiment cette intensité. Oui, et souvent il y a cette réflexion, où est l'architecture, ces propres architectes, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Par exemple, c'est une remarque souvent... de Whitechapel où nous n'avons pas cette obligation pour nous-mêmes pour vraiment mettre quelque chose là-bas. On est plutôt intéressé qu'est-ce qui va y arriver avec les gens qui seront là et tout ça, comment ils vont qu'est-ce que ça va ça va être dans leur regard ou dans leur cœur. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ça veut dire, de temps en temps, il y a pas exprimer une forme. On a fait une sculpture. C'est vraiment quelque chose qu'on... Pas nous, les choses comme le Guggenheim. C'est très loin de nous, très, très, très loin. C'est pour nous un travail... avec les gens. On a besoin des gens.
Justement, vous avez dit une fois, attendez, je la recite, c'est une citation de vous. J'ai toujours eu une affection particulière pour les plafonds.
Oui.
Ils sont le domaine exclusif de l'architecte.
Oui.
Alors, je pense que vous étiez en train de donner l'explication de cette phrase.
Oui, oui,
est-ce
que
vous pouvez continuer?
Oui, il y a quelque chose avec le. Oui, je pense que l'architecture, vraiment. Vraiment fondamental et important, c'est vraiment le toit au-dessus des hommes, la coupole. C'est ça. C'est l'élément le plus fondamental, ce qui est là. Mais le reste, ce sont les gens qui sont en dessous. Oui.
Thank you.